Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale pour ce vendredi 31 mai 2019. Bienvenue à notre émission. Rebienvenue après une semaine difficile la semaine dernière en préparation pour ce qu'on appelle mon enterrement de vie de garçon. Je m'en suis finalement remis et je peux me dédier à vous pour les 30 prochaines minutes environ. Alors, aujourd'hui à l'émission, nous allons refaire un petit retour sur le match de l'Impact de mercredi dernier contre le Real Salt Lake au Stade Saputo. L'Impact y a gagné 2-0 avec une grande performance des jeunes Chez Mitchell, Mathieu Choignard, malheureusement qui a dû quitter le match sur blessure. Nous allons y revenir dans quelques instants. Mais grande performance des jeunes et aussi très belle performance, je dois dire, de Omar Brownie, qui a marqué le premier but de l'Impact, suivi de Saphir Taider, qui a marqué le deuxième pour l'Impact. Grosse performance pour le milieu de terrain algérien, qui a peut-être eu vent de sa non-sélection pour la Coupe de l'Afrique des Nations, et pour cette raison a peut-être décidé de se venger sur le terrain en montrant au sélectionneur algérien à quel point il a erré dans sa sélection. Mais revenons à cette match, plutôt à l'émission. Un petit peu plus tard, nous allons regarder le classement MLS, le calendrier de l'Impact pour les prochaines semaines, prochaines journées et prochaines semaines. Nous regarderons aussi les résultats en Première Ligue canadienne durant les deux dernières semaines. Et nous pouvons regarder et voir à quel point le Cavalry FC de Calgary est en train de s'emparer du championnat printanier de la nouvelle ligue de soccer, la plus récente ligue de soccer au monde. Hein? On est peut-être les derniers, mais en tout cas, on est premier dans quelque chose. On est la première ligue la plus récente présentement au monde au soccer. Revenons à cette victoire de l'Impact. Grosse performance de Mathieu Choignard. Je trouve qu'il... c'est sûr, il va faire des erreurs. C'est un jeune encore, mais selon moi, les erreurs qu'il commet versus les bons, le positif, l'argne, la combativité, un instinct du jeu qui est correct. Et même si ce ne l'était pas, je pense que c'est important qu'on ne brise pas l'instinct d'un jeune joueur et qu'on la dirige dans la bonne façon, mais qu'on n'en mette pas trop sur ses épaules en brisant et en lui donnant beaucoup de négativité par rapport aux erreurs qu'il peut causer, grâce à une erreur de jugement qui peut arriver, qui vient de l'instinct. Si on l'oppresse et on lui mentionne, non, pas comme ça, toujours négatif, on peut enlever un petit peu cette attitude de je me trompe, cette attitude, de, ce qu'on appelle un petit peu libre, cet électron libre en pensée qui fait qu'on pense pas, on agit, on joue, on est lousse dans le jargon, qui apporte du positif et de la créativité au soccer. Je pense que c'est important de ne pas briser cela, et c'est ce qu'on voit avec Rémi Garde et son staff, de la manière qu'il chapeautre le développement de Mathieu Choignard, et on voit des grands gains, des grands élans de croissance récente dans sa confiance, dans son jeu technique, dans sa combativité au duel. Et je pense que c'est là qu'il tire son épingle du jeu. Deux, trois efforts, même jeu, jamais battu. Ça porte ses fruits au terme d'un match, au terme d'une saison, et surtout dans le regard que l'entraîneur apporte envers votre jeu lorsqu'il voit toujours l'effort, au deuxième, troisième, même s'il leur se fait battre sur un ballon, ne quitte jamais ce jeu et continue, suit son erreur ou suit sa passe. Et même chose pour un Chez Mitchell qui parlait après le match dans ses propos anglophones, à quel point une conversation plus tôt dans la semaine avec Wilfried Nancy, assistant entraîneur de l'Impact de Montréal, à quel point cette conversation mentionnant « Chamit, pense au cutback, vous m'excuserez le terme anglophone, pense au repli intérieur du joueur de l'aile de ton côté, il va peut-être se retrouver disponible. » RSL, Real Salt Lake, laisse quand même plus d'espace qu'on est habitué au milieu pour ces milieux défensifs, donc en tant qu'attaquant au milieu, lorsqu'on se retrouve à l'orée du dernier tiers, il y aura plus d'espace. Et on a vu Chez Mitchell qui a débordé vers la droite, tout de suite renvoyé le ballon vers l'intérieur, à l'intérieur même du défenseur. Omar Brown se retrouve avec un ballon, deux touches et le but. Et ça, c'est les commentaires que Evan Bush mentionnait après le match aussi. envers Omar Brownie. Evan Bush a mentionné Omar Brownie. La question qui était drôle, c'est est-ce que Omar Brownie a compris ça? On le sait pas, mais Evan Bush mentionnait, je viens de parler à quel point c'est pas toujours dans la quantité de touches que le succès se retrouve en MLS. C'est pas parce que tu prends le ballon, tu fais 22 touches en courant une course et tu finis avec un enroulé dans le coin gauche. C'est pas vraiment ça qui va changer grand-chose. Ça arrivera pas souvent, mais ce qui peut arriver beaucoup plus souvent dans cette ligue, c'est petites touches, une, deux, déplacements, passe, mouvement vers l'avant, échange de position, et ce qui est arrivé, un, cutback vers l'intérieur pour Omar Brownie, deux touches, une touche pour stabiliser le ballon, la frappe, et c'est 1-0 Montréal, et tout cela créé à cause d'une conversation plus tôt dans la semaine, entre Wilfred Nancy, assistant entraîneur de l'Impact, et Chemin Chaume, milieu défensif. Chemin Chaume qui devient tranquillement une option solide aux côtés de Samuel Piette en tant que défenseur, que milieu défensif, je veux dire. Et c'est beaucoup. Là. La grosse différence entre Azira et Chemin Chaume, pour moi, c'est... Il n'y a pas de perte de momentum. Je ne veux pas dire que le ballon ne tombe pas mort, ça peut arriver à quelques occasions, mais souvent, Michael Azira, pour cause de ne pas faire trop d'erreurs, j'imagine, donc pour cause de jeu conservateur, c'est correct, c'est peut-être ce qu'on lui demande, on n'est pas au courant de ses discussions internes, mais il y a une flagrante différence de jeu entre un Chemin Chaume et un Michael Azira. Et pour moi, la grande différence, c'est que j'aimerais ça avoir un tableau puis avoir le budget d'avoir un tableau vidéo pour vous montrer tout ça. Je pourrais, mais ça me prendrait 8 heures de graphisme pour vous faire la même chose. Mais j'aimerais ça être capable de vous montrer à quel point lorsque Azira soit intercepte, fait une prise de possession du ballon en sa position naturelle en tant que milieu défensif, ou lorsqu'il y a le pivot de transition entre la défensive et le regard vers l'avant, souvent, il y a quelques secondes de décalage et une transition n'est pas fluide. Perte de momentum, perte de chance, perte d'ouverture possible vers l'avant, c'est ce qui peut arriver souvent. Et des fois, la passe qu'on voit, c'est facile, hein, lorsqu'on a une vue d'oiseau sur la galerie de presse ou on regarde à la télévision, on voit le jeu d'une autre façon, et on voit les espaces créés entre certains joueurs. Des fois, c'est plus flagrant pour nous sur la galerie de presse que pour le joueur à vision terrain du jeu. Mais encore une fois, souvent, on a cette manque de momentum, cette manque de continuation du momentum, la rapidité du ballon tombe un petit peu plus morte avec Michael Azira en tant que pivot de cette transition au jeu. Lorsqu'on a Chemin Chaume, sa vitesse est différente. Il n'est pas plus rapide que Azira, mais il est plus rapide sur le départ lorsqu'il prend le ballon. Donc, sa prise de décision initiale lorsqu'il prend possession du ballon pour Chemin Chaume devient un outil important pour l'Impact. Se retourne vers l'avant, transitionne, accélère, petite touche et une passe habituellement quand même très, très facile, ce que je pourrais dire, donc une passe à haut pourcentage d'efficacité qui réduit la possibilité de perte de ballon, de perte de possession et de revirement. Et je pense que c'est là la beauté du jeu que Chemin Chaume se développe des deux côtés du ballon, un box-to-box milieu défensif avec quand même une possibilité de seconder l'attaque comme on a vu lors de cette passe décisive là, de son jeu. Donc Chemin Chaume, un joueur qui peut bénéficier cet été du départ, malheureusement, de Samuel Piette pour la Gold Cup, qui a été choisi avec Zacharo Brouillard. Mais nous aurons la possibilité de voir Chemin Chaume jouer un petit peu plus souvent avec l'Impact de Montréal. Et dans le futur, Chemin Chaume représentera le Canada, je vous le garantis. Il a un bel avenir devant lui. C'est le fun de voir la patience que l'Impact de Montréal et Rémi Garde donnent à Chemin Chaume, et je crois que c'est en train de porter fruit. Rémi Garde a mentionné après le match, et vous allez entendre dans quelques minutes, à quel point Chemin Chaume a toujours été un joueur extrêmement intelligent. Les conversations qu'il a eues avec Rémi Garde ont démontré que Chemin Chaume était un étudiant du jeu, si je peux me permettre cette expression anglophone, et est vraiment fasciné par la tactique, par le jeu en tant que tel et les façons de tirer son meilleur épingle, les différences d'identité, différences de jeu, différences de schéma, tout ce qui peut avoir avec les tactiques et comment bien utiliser son jeu à lui envers ça, les conversations, la théorie du foot, comme on peut dire. Une grande conversation que Rémy-Garde a mentionné qu'il a déjà eue avec Chamet de Chaume. Et je pense qu'on voit cet aspect du jeu de Chamet de Chaume. Son quotient intellectuel soccer est en train de bien se développer pour Chamet. Donc, bien content. Taider, beau match de Saphir Taider dès les premières minutes. On parlait des 8 minutes de feu pour l'Impact au début. C'est dommage que l'Impact n'a pas réussi à marquer lors de ces 8 minutes. On parle d'un arrêt à bout portant de Nick Remando. Et juste avant cela, Taider qui frappe la barre transversale aussi. Ça aurait pu être 2-0 après 8 minutes pour l'Impact de Montréal. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer. Et ça aurait pu venir les hanter un petit peu plus tard lorsque RSL a marqué leur seul but plus tard dans le match, lorsque ça a fini 2-1. Mais je trouve que l'Impact a réussi à trouver peut-être une façon de mieux commencer son match. Je ne sais pas si c'est l'aspect domicile, l'aspect qu'ils ont vu RSL reculer rapidement. RSL s'est ajusté 10 minutes après le début du match et ont trouvé leur façon. Plata a été plus influent dans ce match. Et Joel Plata, à quel point, est toujours plaisant de le voir jouer. Un bon petit joueur, et je ne dis pas ça malheureusement, mais à cause de sa grandeur qui est 5 pieds 2 officiellement, mais je pense que ça, c'est avant qu'il sorte de la sécheuse parce qu'il répétit un petit peu. 5 pieds 1, puis même là, c'est généreux. Joao Plata, son centre de gravité, la grosseur de ses cuisses, sa solidité sur le ballon, il est dur à enlever sur le ballon, le petit, et ça, c'est une de ses grandes qualités, mais plus utilisé quasiment en joueur en milieu défensif, mais en électron libre, milieu défensif qui peut supporter l'attaque, et il y a toujours un échange de position avec le joueur avec lui. Toujours beau à voir. Beckerman qui était blessé. Malheureusement, on ne l'a pas vu pour RSL. Et RSL qui est une équipe un petit peu difficile à jauger. On parle d'une équipe de mi-tableau qui peut avoir des bons résultats une fois de temps en temps, mais qui peut s'en faire marquer 4-5 aussi. On a vu les deux arriver cette saison. Mais parlons des 8 minutes de feu pour continuer. L'Impact doit continuer sur cette idéologie d'essayer rapidement, mais de voir si c'est pas fonctionné. On réussit pas à avoir une percée, à marquer rapidement. C'est pas le temps de continuer à pousser non plus. On a vu l'Impact constant en fin de match, même s'ils ont absorbé, ils ont été un petit peu mous, comme dirait Rudy Camacho. En fin de match, ici, ça aurait pu être dangereux. Je pense que c'est important de pas trop dépenser nos cartouches d'énergie rapidement dans le match et de garder certaines cartouches pour la fin de match. On a vu l'équipe de Montréal, après 8-9 minutes, se tempérer un petit peu, prendre contrôle, pas nécessairement du jeu ou de la possession, ça c'est pas nécessairement le jeu 100% montréalais, mais l'Impact a trouvé un moyen de pas dépenser autant d'énergie, de se tempérer un petit peu, et de prendre les chances lorsqu'ils allaient venir. On parle de premier but depuis le 16 mars en première demi, c'est un match contre le Orlando FC à Montréal, qui est une victoire de 3-1 de l'Impact. 16 mars, c'était pas Montréal, c'était sur la route. Le 16 mars dernier, c'est la première fois que l'Impact marque en première demi. C'était vraiment en fin de première demi. C'était première demi en théorie seulement, mais en pratique aussi, mais pas par grand-chose. Hein. Dès que le ballon était remis au centre du terrain après le but de l'Impact, le but de Brownie, puis les sifflets de la mi-temps est arrivé. Là. Mais on parle d'une bonne façon, je crois, tactiquement, théoriquement, de commencer. OK, la percée n'est pas là. On ne gaspillera pas trop d'énergie pour essayer d'aller le chercher tout de suite. Revenons un petit peu plus tempérament, un petit peu conservateur et gardons nos énergies pour mi-deuxième demi. Et allons-y à cette fois-ci lorsque les défenseurs seront un petit peu plus fatigués, lorsqu'on peut faire rentrer un joueur qui aura cette capacité à trouver la façon d'utiliser son énergie. En tout cas, je pense que ça va continuer à bien marcher pour l'Impact. Et avec la puissance des joueurs, comme on a comme un Chouanière qui, lorsqu'il rentre en fin de match, apporte quelque chose. Et lorsqu'il débute, comme le match mercredi, apporte grandement aussi. Mais Chouanière, blessure à la tête, on va avoir plus de détails, espérons bientôt. Mais gros contact avec Glad du RSL, il a reçu la tête en dessous du menton et perte de conscience dès lors de l'Impact. inconsciemment frappé le sol extrêmement solidement lorsqu'il a retombé de très haut. On parle d'une chute d'environ un 1,6, 1,7 mètres facilement. Et était inconscient, a perdu conscience pour quelques instants et a été sorti sur blessure. Ça allait bien. Jeudi matin, a pris sa voiture, s'est rendu au centre Nutrilait. Manque l'entraînement aujourd'hui en vendredi, donc on va attendre d'avoir plus de blessures, voir l'étendue des dommages. Espérons qu'il n'y a pas trop, mais on peut se douter que commotion cérébrale est une chose extrêmement possible, surtout avec ce genre de choc à la tête et avec une perte de conscience qu'on a tous vue, et aussi ce qu'on appelle la rigidité d'une perte qui vient avec une perte de conscience. Si vous êtes un fan de sport de combat, vous avez déjà vu des mises hors de combat lorsque le combattant est tout rigide, devient ce qu'on appelle stiff, rigide. Cette rigidité vient de la perte de conscience et des nerfs qui se rigident en réagissant à cette perte de conscience. On a vu un petit peu cet effet avec Mathieu Choignard, si vous regardez la vidéo, lorsqu'il atterrit. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement et en espérant que la guérison se fait rapidement pour le jeune Québécois. Écoutons maintenant les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde, suivi du défenseur central de l'Impact de Montréal, Rudy Camacho.
L'état de santé de Mathieu Choignard, monsieur l'entraîneur?
Ça allait quand j'ai quitté le vestiaire, mais j'ai pas plus de précision.
Coach, on a parlé cette semaine, peut-être un certain manque d'envie au cours des derniers matchs. L'impact est sorti fort, est sorti avec le couteau entre les dents. Êtes-vous content de cette réaction qu'on a pu voir ce soir au Stade Saputo?
Oui, je mesure un peu tout ce qui a été dit sur le dernier match et ce que l'on m'a fait dire aussi après le match. On m'a posé une question sur les duels aériens du précédent match où j'ai dit effectivement que sur ces occasions précises, on n'avait pas répondu présent, mais ça ne voulait pas dire qu'on avait manqué de combativité sur l'ensemble du match. Donc je voudrais nuancer ça. Quant à la victoire d'aujourd'hui, elle est... c'est pas une réaction pour moi, on était dans l'action, on a été un peu plus constant que d'habitude. On a traversé leur temps fort de manière un peu plus solide, j'aurais aimé qu'on soit encore plus solide, mais dans l'ensemble du match, oui, la volonté qu'ont eu mes joueurs était satisfaisante.
Coach, the first of three games in 8 days at home, how important was it to get off on the right foot tonight with a victory?
Yeah, hopefully it will give us a good momentum for the next two one. The next one will come very shortly, then we will need to recover very well and maybe find some fresh legs, because I think that Orlando won't have play in midweek. Then it will be a tough one, but I think for the confidence of the team, of the individual confidence of a few guys this tonight, it has been a good one.
Coach, would you say this was a character win for you guys, by the way it started and finished the game?
Can you repeat your question?
Was it a character win for you guys tonight, and how it played out for you, a character win?
Yes, it was. We played against a good team that just won the last three. They played against a good team, Atlanta, Colorado, and Toronto. Then we knew that their momentum was very good. They showed that in 20 minutes in the first half. After we had a very good start, I think we deserved to open the score very early in that game. We didn't, and then they went back. But second half, I think we played quite well.
Savez-vous que depuis le début de l'année, c'est peut-être le match où vous avez assemblé les deux meilleurs demi pour former un tout?
Oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on avait joué ici contre New England, c'est vrai que les 45 premières minutes étaient sans doute aussi bonnes que celles-là, voire meilleures, parce qu'on avait été plus constant sur les 45 premières. La deuxième période avait été plus difficile, donc oui, on a augmenté notre temps de jeu dans lequel on était bien. Je pense aussi que la surface de jeu aujourd'hui était vraiment plus propice à un jeu rapide. Je crois qu'on l'a vu ce soir par rapport aux trois premiers matchs qu'on a joué ici, où le ballon n'allait pas vite, où il était beaucoup plus difficile d'attaquer que de défendre. Je crois que ce soir, on a eu un peu plus de maîtrise technique. Je pense qu'on peut faire mieux encore, mais voilà, pas oublier qu'on avait joué vendredi soir, qu'on a voyagé. J'ai senti mon équipe, pour revenir à ce que j'ai dit au début, d'un point de vue mental, très déterminé à prendre les trois points ce soir, mais d'un point de vue physique, j'ai senti par moments que c'était un petit peu dur.
Near the end of the game, you found yourself with technically six defenders on the field, but one of them being Zachary Broguillard, who you actually had playing in a more forward position. I was just curious about what your impressions were of his performance playing more up front as you took him off for, you put him on for Omar Browning tonight.
Yeah, sometimes you want to close the channel because they had a player coming in, and who was very fast, and I wanted to help Bakary Sagna to defend, and Zach is also very keen to go forward sometime. Then we saw that he had a very good chances. Then what he has done on the right channel was very interesting for the team.
Coach Rudy Caracho a fait un fort match des deux côtés du terrain, propre en défense, belle relance offensive. Comment vous évaluez justement sa performance et est-ce que c'est rassurant de le voir à ce niveau-là?
Oui, mais je pense qu'il a joué au niveau où on l'avait vu déjà à Red Bull. Voilà, on sait que la situation pour les centraux, elle n'est pas facile, et notamment pour Rudy, qui a eu un peu moins de temps de jeu que les autres. Et voilà, que ce soit lui, que ce soit Victor, que ce soit Yuka ou Zach, je l'ai dit, je le répète, ils ont des niveaux de jeu qui sont finalement assez proches, mais avec des caractéristiques différentes. Voilà, ce qui est intéressant avec Rudy, c'est qu'il s'entraîne toujours bien, il est toujours très positif, et quand je fais appel à lui, il est là, et ça c'est très important, de ne pas avoir d'état d'âme quand on est dans cette situation.
Merci.
Trop petit.
Ah ben non, un peu trop grand.
Ouais. Est-ce qu'on célèbre une victoire lorsqu'on a trois matchs dans la même semaine un peu différemment que lorsque c'est le seul match de la semaine?
Non, on savoure. Après, on va pas faire la fête ce soir parce qu'on a match un match samedi, mais sinon on savoure de la même façon.
Quand on regarde votre performance aujourd'hui, grosse performance pour l'équipe aussi, mais en fin de match. Est-ce que c'est un résultat du score du match qui fait qu'on s'assied un petit peu sur l'avance ou lorsque Real Salt a marqué, vous a donné un petit relan encore une fois?
On a eu un petit coup de mou sur la fin, je trouve. On est déçu du but qu'on a encaissé parce qu'ils n'ont pas eu d'occasion jusqu'à ce but. Donc on aurait voulu garder le zéro, mais voilà, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a pris les trois points. Dommage, mais c'est vrai qu'à la fin, on a eu un coup de mou et moi, le premier, on était fatigué.
T'as retrouvé le terrain à un très bon niveau au Red Bull Arena, une autre bonne performance ce soir. Sur d'un point de vue personnel, est-ce que c'est plaisant justement de voir que bon, t'enchaînes deux bonnes performances comme ça et t'envoies peut-être un message au coach que t'es au niveau où peut-être il s'attend que tu sois?
Ouais, c'est mon but. Voilà, c'est vrai que je suis dans la tête du coach au début, je suis pas partant. Mon but, c'est de changer ça et voilà, après, c'est mon job d'être bon. Et ben, faut que je sois bon chaque fois qu'on me met. Donc aujourd'hui, ça s'est bien passé dans l'ensemble. À Red Bull aussi. Faut continuer et dès que le coach aura besoin de moi, ben, je répondrai présent.
Merci à Rémi Garde et Rudy Camacho pour leurs commentaires d'après-match après la victoire de l'Impact 2-1 contre le Real Salt Lake mercredi dernier, le 29 mai, au stade Saputo. Maintenant, regardons un peu rapidement les autres résultats en MLS. MLS ici devant nous. De mercredi pour l'Impact. Encore une fois, un bon résultat dans l'Est. L'Impact qui profite du fait que personne qui désire vraiment gagner plusieurs victoires d'affilée dans la conférence de l'Est et se sauve avec quand même une belle récolte de points. Quand même un bon maintien de sa position au classement dans la semaine. On va regarder le classement dans quelques instants. Mais regardons les résultats de cette mi-semaine en MLS. Atlanta 3, Minnesota 0, Philadelphie 1, Colorado 1. Donc Atlanta récolte 3 points, mais Philadelphie seulement une récolte de 1 point. L'Impact qui a diminué l'écart entre ceux-ci et l'Impact. DC United Chicago 3-3, Sporting Kansas City 0, LA Galaxy 2, Zlatan fort match. Et cette fin de semaine, nous avons plusieurs matchs en MLS qui nous attendent. Donc vous avez Toronto-Vancouver, un derby canadien ce soir à 22h, heure de l'Est. Montréal-Orlando demain 17h après la finale de la Ligue des Champions. On note que la finale sera diffusée au stade Saputo. Donc arrivez plus de bonne heure et venez nous dire un petit bonjour. Si jamais vous posez la question, ah, je suis où moi au stade Saputo? Vous savez, la galerie de presse, elle est où? Galerie de presse, il y a une galerie de presse extérieure. Il y a la radio. Donc, vous avez 92.5 FM et vous avez à leur droite ou à la gauche, lorsque vous le regardez d'en face, vous avez TSN Radio, les deux diffuseurs radio officiels. Moi, je suis, si vous regardez en face, je suis à droite de 92.5 FM sur la galerie de presse extérieure. Je suis absolument le dernier au bout. Et me dire un petit bonjour si vous passez dans le coin, sur la tribune nord, la passerelle au-dessus des gradins. Venez me dire un petit salut la prochaine fois. Donc, Atlanta-Chicago, demain, 18h. New York Red Bulls, Real Salt Lake, Columbus, NYCFC, Dallas Sounders. Les Sounders qui est un des adversaires de la semaine dernière. La semaine prochaine, excusez pour l'Impact, mercredi prochain, au Stade Saputo, 19h30. Les Sounders de Seattle seront en ville, DC United San Jose, demain soir 22h à 20h, Colorado FC Cincinnati, Houston Kansas City et Portland LAFC dans la fin de soirée, demain soir et dimanche, Minnesota, Philadelphie ou Philly, LA Galaxy, New England pour terminer cette fin de semaine de match en MLS. Regardons un petit peu les matchs qu'ils ont eus dans la Canadian Premier League depuis mercredi dernier, depuis le 25 mai. Forge a gagné à la maison des York. Les York Lions Stadium qui, je dois vous avouer, si vous pensiez que le stade ou le terrain du NYCFC au Yankee Stadium était petit, non. C'est pire. York Lions est littéralement le plus petit terrain possible par la FIFA pour un match. Il y a à peine 2 mètres entre le corner, là, où on fait les coups de pied de coin, le coin du terrain, là, je cherche ce mot-là, là, le coin. J'avais juste corner dans la tête, le coin du terrain et le début de la boîte des 18 verges, là, il y a à peu près 2 mètres. C'est quelque chose. Et le terrain sera agrandi pour l'année prochaine. Ils vont retirer quelques couloirs de la piste d'athlétisme qui existe aux alentours du terrain actuel au York Lions Stadium, qui est le terrain de York University dans ce qu'on appelle le U Sports, l'université ontarienne York, et qui est son terrain d'athlétisme et de soccer qu'ils ont prêté pour les quelques prochaines années à York 9. Le terrain sera agrandi pour l'année prochaine, mais une autre défaite pour York 9, qui est toujours la seule équipe sans victoire en Première Ligue canadienne. Un autre match qui a eu lieu le 25 mai, Cavalry 2, les HFX Wanderers 0, une autre victoire pour Cavalry. 5 matchs joués en Ligue, 5 victoires, 7 matchs total avec joués en Championnat canadien, 2 autres victoires, 7 victoires en 7 matchs pour l'équipe de Tommy Wilden Jr., qui est, et de loin, l'entraîneur le mieux habillé en Première Ligue canadienne. Mercredi dernier, le 29 mai, il y avait 2 matchs à l'affiche aussi en Première Ligue canadienne. Les Wanderers qui ont fait le match nul à la maison contre le York 9 et Forge qui a encore gagné 2-0, cette fois à la maison contre les Lapins de Edmonton, mieux connus sous le nom de FC Edmonton, 2-0. Pour Forge FC, on rappelle que le premier marqueur de l'histoire du FC Edmonton en Première Ligue canadienne est le premier Québécois à avoir marqué en Première Ligue canadienne est l'ancien du FC Montréal, Mele Temgwa, qui joue présentement pour le FC Edmonton. Cette fin de semaine, nous avons quelques matchs à l'affiche aussi en Première Ligue canadienne et ces matchs sont ceci et voilà. Donc, nous avons deux matchs cette fin de semaine. 1er juin, les HFX Wanderers à la maison. Le troisième plus gros derby de l'histoire du soccer au monde. Côté distance, entre les HFX Wanderers à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et le Pacific FC qui est sur l'île de Vancouver, près de Victoria. On parle de la troisième plus grande distance. Les deux autres, c'est des équipes en Russie, entre la Sibérie puis quelque part à côté, à gauche de l'Oural. C'est ça. Donc, on parle quand même d'un grand match, d'un grand voyagement pour Pacific. Un match qui pourrait être intéressant, voir l'équipe de Steven Hart et HFX Wanderers contre l'équipe dirigée par le Danois Michael Silberbauer de Pacific FC. Un match intéressant et aussi un autre match ce samedi, un petit peu plus tard, le match de 1er juin, le match à Wanderers, à 1h, heure de l'Est. Donc, on parle de 2h dans l'après-midi, l'heure de Halifax. 1h plus tard dans les Maritimes s'applique ici. Et voilà. Et 18h30 pour le match FC Edmonton contre le Valor FC à Clark Field dans l'Ouest canadien. Ce qui attend l'Impact dans les prochaines semaines, nous allons voir apparaître ici à l'écran. Et nous avons évidemment demain, Orlando, les Seattle Sounders, le mercredi suivant, le 5 juin, et après une petite pause. 21 jours de pause jusqu'au 26 juin. L'Impact prend une petite pause et se revient après avec deux matchs en 3 jours contre Portland le 26 juin. À Montréal, et j'y serai, et ce sera mon dernier match pour quelques semaines, car je me marie la journée du match contre Atlanta. Donc, je ne ferai pas le voyage à Atlanta le 29 juin, je serai occupé, et j'espère que vous me pardonnerez cet égard dans ma couverture de l'Impact du 29 au 10 juillet. Ne cherchez-moi pas. Twitter, je ne serai pas là. Facebook, Je pense pas que ma future épouse serait bien heureuse de me voir en lune de miel sur Twitter et c'est cela. Je parlerai pas de chance. Le divorce me tente pas la semaine de mon mariage. Donc, l'Impact de Montréal, Portland le 26 juin, suivi du Atlanta United et Montréal à Atlanta le 29. Et le match ensuite, c'est le 6 juillet. Contre Minnesota United et ensuite débutera le championnat canadien. Donc, c'est ce qui attend l'Impact dans les prochaines semaines. Nous allons terminer l'émission en regardant le classement de la MLS qui devrait apparaître à votre écran maintenant. OK, peut-être pas. Nous allons vous faire ça. Et voilà. Présentement, dans l'association de l'Est, c'est ce qui nous importe pour l'instant. Éventuellement, on va regarder l'Ouest et le classement total. Parce que ça va être important de regarder les potentiels avant, les adversaires potentiels de l'Impact. Mais pour l'instant, l'Impact, troisième dans l'association de l'Est, avec 24 points. Une moyenne de points par match de 1.5. Donc, dû à leur plus grand nombre de matchs joués, ils seraient techniquement cinquième à égalité avec les Red Bulls. Mais non, l'Impact est troisième. 16 parties jouées, 7 victoires, 6 défaites, 3 matchs nuls pour le 11 Montréalais. 19 buts pour, 24 buts contre pour un différentiel de moins 5. Une fiche à la maison de 3 victoires, 1 défaite, 1 match nul. Et une fiche sur la route qui est la meilleure dans la MLS, je dois vous le dire. De 4 victoires, 5 défaites et 2 matchs nuls. Pour l'équipe de Rémi Garde. C'est ce qui nous amène à la fin de l'émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous suivre. Et si vous nous écoutez en direct ou vous écoutez avant le début du match de la finale de Ligue des Champions demain, je prends pour qui, là? Moi, je suis neutre. Je viens de gagner l'Europa League. Ben, moi, pas moi, là. Mais Chelsea. Liverpool, Spurs. Mais, je sais pas. Mais je vais être au stade. Venez me voir sur la galerie de presse durant ce match. Pourquoi pas? Un petit salut en passant. Et dites-moi si je devrais prendre pour Liverpool ou si je devrais prendre pour Spurs ou si je devrais m'en... Bon, commence par C. C'est ça la question, j'imagine. Mais, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @surtransversal, là où nous diffusons nos émissions en direct sur notre profil Twitter. Émission en différé, mais vidéo sur notre page Facebook, facebook.com/sur-la-transversale. Version balado disponible partout où vous trouvez vos balado-diffusions. Faites la recherche de Sur la transversale et abonnez-vous. Nous vous remercions énormément de votre support depuis 2013. Mais, comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, je suis Kevin Laramé et je vous souhaite bon soccer.